Traveler, la carte prépayée, rechargeable jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois pour effectuer vos achats en ligne et dans les commerces, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Soudan, Gambie, Sénégal, Tchad, Niger, mais aussi Iran, Pakistan, États-Unis, pluies torrentielles et inondations souvent meurtrières se sont multipliées ces dernières semaines aux quatre coins de la planète. Pourquoi sont-elles de plus en plus dramatiques et fréquentes? Vos dirigeants ont-ils saisi l'ampleur du phénomène? Quelles sont les mesures à prendre d'urgence pour mieux affronter les conséquences du dérèglement climatique? Vous pouvez encore nous appelez au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Human Rights Watch accuse l'armée camerounaise d'exactions contre les civils dans le nord-ouest anglophone du Cameroun. Entre le 24 avril et le 12 juin, note le rapport de l'ONG, des soldats ont tué sommairement au moins 10 personnes, brûlé des maisons, détruit et pillé des centres de santé, détenu arbitrairement au moins 26 personnes et en aurait fait disparaître 17 autres. Henri, bonjour.
Bonjour Chantal et bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale.
Vous nous appelez de Douala au Cameroun. En ligne également avec nous, Ilaria Allegrozzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse sur l'Afrique centrale pour Human Rights Watch. Henri, on vous écoute.
Effectivement Chantal, j'aimerais donc savoir, ça fait plus de 5 ans de guerre civile. Nous sommes plus de 5 ans du début de la guerre civile dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pourquoi ce rapport n'est publié que maintenant?
Ilaria Allegrozzi.
Oui, merci Harry pour votre question. Une question quand même assez singulière parce que Human Rights Watch, depuis le début de la crise anglophone, en fin 2016, publie des rapports qui portent sur les exactions commises de la part des séparatistes armés et des forces de sécurité. Ce dernier rapport, pourquoi maintenant? Parce qu'il porte sur des récentes cas de violations des droits humains perpétrés par des forces de sécurité dans la région du Nord-Ouest depuis avril 2022 jusqu'à juin de cette année. Nous avons documenté comment les soldats ont tué des civils, brûlé des maisons, pillé, saccagé des centres de santé, des cas très graves qui malheureusement ne sont pas nouveaux et qui font partie d'une tendance qui s'inscrivent dans un cadre plus large d'exactions systématiquement commises par les forces de sécurité camerounaises dans les régions anglophones depuis que la crise a commencé.
Que répondent les autorités camerounaises à vos accusations, Ilaria Allegrozzi? Comment ont-elles réagi à votre rapport?
Comme d'habitude, nous avons saisi les autorités avant la publication du rapport. Nous avons envoyé les résultats préliminaires de notre recherche au porte-parole de l'armée qui n'a pas répondu directement à notre question. Nous avons quand même pu voir une brève réponse justement à RFI et à AFP. AFP, il disait qu'il n'avait rien à signaler. À RFI, par contre, il niait les exactions. Donc, les autorités camerounaises ont du mal à s'engager dans un dialogue franc et ouvert et transparent avec les organisations de la société civile et des droits de l'homme préfèrent nier les abus plutôt que mener des enquêtes sérieuses, impartiales, indépendantes sur les crimes commis par leurs forces de sécurité.
Henri, vous avez une autre question pour Ilaria?
Effectivement, j'aimerais donc savoir quels sont les éléments qui ont permis à Ilaria et à Human Rights Watch d'accuser l'armée de meurtres et de détentions arbitraires dans ces régions.
Ilaria Allegrozzi.
Oui, disons que le rapport est assez clair sur la méthodologie des recherches utilisées pour récolter les preuves des abus commis par les militaires. Nous nous sommes entretenus avec des personnes qui avaient connaissance des incidents documentés. Nous avons parlé avec des témoins, des membres des familles et des victimes, des leaders communautaires, des journalistes, des membres des organisations de la société civile, des avocats. Nous avons également examiné plus de 50 photos et vidéos qui montrent les preuves des violations commises par les soldats, notamment des maisons brûlées, des magasins brûlés, des centres de santé saccagés. Et notre méthodologie de recherche consiste toujours à récolter des informations qualitatives et quantitatives et à corroborer les entretiens avec les témoins des violations avec des preuves matérielles, des photos, des vidéos, des images satellites, des dossiers judiciaires, des certificats médicaux, etc.
Henri, vous avez une dernière question ?
Effectivement, on ne parle que de l'armée là maintenant, mais j'aimerais savoir également quels sont les rapports publiés sur les groupes séparatistes qui commettent également des violations graves.
Hilaria.
Très bonne question, Henri. Et oui, bien sûr, depuis le début de la crise, nous n'avons pas cessé de documenter les abus et les exactions des deux côtés. Notre dernier rapport portant sur les abus commis par les combattants séparatistes armés date de juin de cette année. Documente comment les séparatistes ont tué des gens, blessé des civils, violé des enfants, brûlé des écoles, enlevé plus de 100 personnes. J'insiste vraiment sur les besoins d'avoir un regard honnête et objectif sur cette crise et de documenter les abus de la part des deux côtés. Les séparatistes ont mené d'ailleurs des attaques généralisées contre l'éducation et nous avons publié un rapport décembre de l'année passée dans lequel nous documentons justement ces attaques généralisées, systématiques contre les écoles, les enseignants, les élèves. Tout ça, bien sûr, a eu un impact dévastateur sur les droits des enfants à l'éducation.
Merci beaucoup, Hilaria Allegrotti, d'avoir répondu à nos questions. Henri, merci de nous avoir appelés. Bonne journée à Douala. Le Pérou s'enfonce un peu plus dans la crise politique après la démission début juillet d'un quatrième Premier ministre en un an. C'est au tour de la belle-sœur du président Pedro Castillo d'être soupçonnée de corruption, ce qui a provoqué le 9 août la perquisition du palais présidentiel, puis le lendemain, celle du domicile privé du chef de l'État, du jamais vu au Pérou. Yennifer Paredes s'est finalement livrée à la justice. Bruce, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à toute votre équipe et bonjour à Evelyne.
Vous nous appelez de N'Djamena au Tchad. Effectivement, Evelyne Mesclier est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et spécialiste de l'Amérique andine. Bruce, quelles questions voulez-vous poser à Evelyne Mesclier ?
Ok, concrètement, est-ce qu'il existe des preuves que le président péruvien soit lié aux agissements de sa belle-sœur ? Quel impact a cette affaire sur le président ?
Evelyne Mesclier, d'abord, de quoi est soupçonnée exactement Yennifer Paredes ?
Alors, Yennifer Paredes, comme beaucoup de cas de corruption en fait au Pérou actuellement, est soupçonnée dans une affaire de marché public qui ont été attribuées à des très proches en fait à une entreprise avec laquelle elle travaille elle-même dans des conditions peu claires. Alors c'est un type de corruption très très fréquent. Et j'en profite pour rebondir sur le côté crise. Alors bien sûr, il y a une crise plus profonde actuellement, mais je voudrais préciser qu'en fait, ce genre de crise en fait dure, ou plus exactement, cette crise institutionnelle dure depuis des années. Je voudrais juste rappeler qu'en 2017, déjà, un président a dû démissionner parce qu'il était impliqué dans des affaires liées au lavage à taux. Donc aux affaires de marché public déjà avec Odebrecht. Et en 2020, il y a eu un coup d'État au Pérou et le président démis n'a pas pu reprendre le pouvoir, entre autres parce qu'il était lié à une affaire de corruption dans l'achat des vaccins contre le Covid. Donc en fait, ce sont des affaires qui se renouvellent, qui sont fréquentes en fait actuellement au Pérou. Mais il est vrai que le président Pedro Castillo, et votre auditeur, Monsieur Bruce, a tout à fait raison, le président Castillo a à peine un peu plus d'un an de son accession au pouvoir, est particulièrement cerné par les affaires qui ont impliqué déjà le secrétaire de la présidence, des ministres dont un a dû prendre la fuite devant la justice, des neveux du président et maintenant sa belle-sœur, donc ça fait beaucoup, et lui-même serait impliqué, selon la justice, personnellement, d'au moins 5 ou 6 affaires.
Mais il est protégé, par son immunité diplomatique.
Alors, il est protégé par son immunité diplomatique, certes, mais d'un autre côté, les voix s'élèvent de plus en plus pour lui demander de laisser le pouvoir.
Oui, et 74, et voilà, il faut mentionner que 74 des Péruviens, selon un sondage Ipsos, désapprouvent le président Pedro Castillo. Le Congrès a tenté de le destituer à deux reprises, sans résultat. Est-ce qu'il est vraiment sur un siège éjectable, d'après vous ?
Alors, il est sur un siège éjectable d'une certaine façon, oui, parce qu'il est dans une position très faible. Effectivement, alors il avait beaucoup suscité d'espoir dans la population, en particulier dans la population qui a été le plus marginalisée par le mode de développement économique des 20 dernières années, en particulier donc dans la cordillère, dans les campagnes. Les gens ont beaucoup voté pour lui dans les cordillères. La crise sanitaire avait encore accentué en fait le mécontentement de ces personnes face aux inégalités. On peut rappeler que le Covid a montré que les inégalités face à la santé étaient très très fortes. Beaucoup d'enfants n'avaient pas les moyens non plus d'étudier à distance, faute d'ordinateur, faute de connexion. Beaucoup de gens vivent de petits boulots, ne pouvaient absolument pas se protéger du Covid. Donc tout ça en fait a donné une ambiance favorable à l'élection de Pedro Castillo. Mais néanmoins, celui-ci a été élu sans véritable équipe en fait de gouvernement. C'était pas c'était une sorte d'outsider très très peu connu, même s'il était leader d'un syndicat.
Oui,
Donc il est il a essayé de gouverner comme il l'a pu, mais il a une position très faible.
Merci beaucoup Evelyne Mesclier pour ces précisions. Bruce, merci de nous avoir appelé. Bonne journée à tous les deux. Les feux de forêt se sont multipliés en Europe ces dernières semaines, en cause la sécheresse renforcée par la canicule depuis janvier, et c'est un record. Plus de 662 000 hectares ont été dévastés par les flammes dans l'Union européenne. Adama, bonjour. Ah, c'est Ibrahim. Ouais. Ibrahim, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à Alice, votre technicienne du jour.
Pardon de m'être trompée sur votre prénom. En ligne avec nous, Jonathan Lenoir, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur CNRS au laboratoire Écologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés. Ibrahim, on vous écoute.
Je regardais un reportage qui montrait que dans les pays du Golfe, on optait pour la provocation de pluies artificielles. Alors, pourquoi les pays de l'Union européenne n'utilisent pas cette méthode ?
Alors, Jonathan Lenoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment on ensemence les nuages, parce que je crois que c'est ça le principe, pour provoquer la pluie ?
Oui, alors c'est une question intéressante, mais alors, l'ensemencement des nuages, ça date de 1946. Hein, la première fois que c'était employé, c'était à New York. Et c'est le principe, c'est de bombarder les nuages avec, par exemple, du iodure d'argent. Ou d'autres procédés en fait qui permet en fait petites gouttelettes de s'agglomérer, de grossir et de tomber. Donc en fait on favorise la précipitation des gros nuages en faisant tomber les gouttelettes de pluie, en les faisant grossir en fait dans le nuage. Donc ça c'est un procédé qui existe depuis des années 1940. À peu près. Et effectivement, dernièrement, dans les pays du Golfe et à Dubaï notamment, ils ont un peu changé le procédé en faisant passer des drones dans les nuages qui, par décharge électrique, donc sans bombardement de iodure d'argent, permettaient à la pluie de... En tout cas, permettait aux gouttelettes de pluie de grossir et donc de tomber. Sauf que le problème de ce genre de technique, c'est la technologie. En fait, on répond au réchauffement climatique par la technologie. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure réponse, mais bon, ben voilà, c'est des technologies qui existent. Et on a vu justement que à Dubaï, ça pouvait aussi conduire à certains travers, comme le fait que cet ensemencement de nuages a eu lieu à des inondations un peu non contrôlé en fait sur site, ce qui a engendré en fait une espèce de panique générale à l'époque hein, quand ils ont testé la méthode aux Émirats arabes là. Et donc il y a quand même des grosses réserves sur ces techniques d'ensemencement de nuages qui sont en fait c'est un petit peu jouer aux apprentis sorciers avec le climat, sachant que le climat c'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer, je pense.
Et en faisant tomber la pluie sur une zone, on peut priver un pays voisin par exemple de
Exactement.
Nuages qui auraient pu lui apporter la pluie.
Oui, c'est exactement les enjeux derrière. C'est que il y a des enjeux ensuite géopolitiques énormes. Si voilà, il y en a qui s'amusent à faire tomber la pluie à un endroit, c'est effectivement des nuages qui seront pas ensuite disponibles, ou en tout cas la pluie sera pas disponible pour des pays voisins. Et donc du coup, on va complètement modifier le fonctionnement du climat global à l'échelle planétaire si chaque pays s'amuse à faire en fait un peu ce qu'il veut à son échelle. Donc c'est assez dangereux, je pense, comme technologie. Et de toute manière, elle n'est pas contrôlée à l'heure actuelle puisque on ne sait pas comment maîtriser en fait l'intensité de ces pluies. Voilà, c'est une technique, mais je pense que encore une fois, voilà, se cacher derrière la technologie pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique actuel et futur, c'est vraiment une erreur.
Merci beaucoup, Jonathan Lenoir, pour ces précisions. Ibrahim, bonne journée. On termine cette première partie d'appel sur l'actualité avec du football. C'est une petite révolution. Pour la première fois depuis 2005, Lionel Messi ne figure pas dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Abdoul, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour.
Vous nous appelez de Conakry, en Guinée. À mes côtés en studio, Simon Bourtembourg du service des sports de RFI. Bonjour Simon.
Bonjour Chantal, bonjour Abdoul, bonjour à tous.
Abdoul, que voulez-vous savoir ?
Chantal, la France Football a publié les 30 nominés du Ballon d'Or la semaine dernière. Et que ma grande surprise, Lionel Messi ne figure pas sur cette liste, alors que Cristiano Ronaldo y est. Or, il n'a gagné aucun trophée pour son club. À ma question, j'aimerais savoir comment expliquer cette absence de grand Messi.
Et vous vouliez savoir aussi si les critères de nomination avaient changé. Simon Bourtembourg.
C'est ça, tout à fait. Alors, en fait, les critères ont changé, c'est exactement ça. Vous citiez le magazine France Football, qui est le magazine qui est l'inventeur du Ballon d'Or, et ils ont en effet décidé une large réforme du mode d'élection de ce qui est en fait la plus prestigieuse récompense individuelle dans le football, le Ballon d'Or. La principale évolution, elle est calendaire. Autrefois, le Ballon d'Or était collé à l'année civile, et donc à cheval sur deux demi-saisons, et désormais, on s'adapte et on juge une seule saison de football complète. Donc le prochain Ballon d'Or, il va récompenser le meilleur joueur sur le dernier exercice, donc d'août 2021 à juillet 2022. C'est un premier élément qui peut justifier la non-sélection de Lionel Messi dans les 30 prétendants à la récompense, hein, parce que Messi, il est arrivé à Paris la saison dernière et sa première saison parisienne, elle a été un peu compliquée. En 34 matchs, il a marqué que 11 petits buts, donc c'est des statistiques qui sont un peu décevantes pour un joueur de sa trempe. Il a pâti aussi certainement de l'élimination précoce du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions.
France Football a aussi acté de nouvelles modalités de règlement pour élire son candidat, son lauréat.
C'est ça, une nouvelle charte qui est à la fois pas vraiment à l'avantage de Lionel Messi, hein, et des immuables de la cérémonie du Ballon d'Or plus généralement. Cette année d'ailleurs, la sélection des 30 a fait émerger 18 nouvelles têtes par rapport à l'an passé, beaucoup de nouveautés parce que de nouveaux critères sportifs sont établis pour l'accession à la liste des nommés. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants sont désormais vraiment primordiaux. L'aspect carrière, les trophées remportés, la classe du joueur ou encore son sens du fair play sont désormais un peu considérés comme des critères secondaires. Et c'était encore l'inverse la saison dernière. C'est ce qui expliquait que Messi avait pu remporter son 7e Ballon d'Or sans réaliser une saison ultra convaincante.
Il y a aussi du changement sur le jury qui sélectionne les candidats au Ballon d'Or.
Oui, qu'il s'agisse du jury final qui sacre le meilleur joueur de l'année ou même du jury qui établit la présélection dont on parle depuis tout à l'heure. Et tout d'abord, il y a l'ancien international ivoirien Didier Drogba qui est désormais l'animateur attitré des galas du Ballon d'Or. En plus de cela, il est devenu le référent sportif du trophée. Il intègre le comité de sélection interne. À ce titre, il fait partie des personnes qui ont choisi les 30 nommés pour le Ballon d'Or. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le seul qui a évincé Lionel Messi, hein, mais il fait partie d'un jury dans lequel il y a aussi beaucoup de journalistes, des journalistes de France Football et du quotidien sportif L'Équipe aussi.
Alors, notre auditeur évoquait Cristiano Ronaldo. Pourquoi, à l'inverse de Messi, il est lui présent dans la liste des nommés au Ballon d'Or 2022, Simon ?
Parce que son bilan, il est meilleur. Le Portugais, il a aussi changé de club l'été dernier. Il est arrivé à Manchester United et malgré ses 37 ans, il a continué à beaucoup marquer, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. Et donc, tout simplement sur l'aspect sportif, aujourd'hui, sa dernière saison est meilleure que celle de Lionel Messi, donc il méritait d'être dans les 30 nommés pour le Ballon d'Or.
Alors, cette année, le grandissime favori pour le Ballon d'Or, c'est Karim Benzema.
Ah, évidemment, le Français est au-dessus de tout le monde et il n'y a pas beaucoup de concurrence. Certains évoquent Sadio Mané, qui a notamment porté le Sénégal pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Mais normalement, avec une Ligue des Champions, un championnat d'Espagne à son actif, le Ballon d'Or devrait être pour lui.
Merci beaucoup, Simon. Abdoul, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à tous les deux.